Il y a longtemps, quand je savais la maison vide, il m'arrivait de téléphoner là-bas. Jamais je ne l'aurais fait si j'avais pensé qu'il y eût quelqu'un. J'écoutais la sonnerie dans le combiné, puis en fermant les yeux, je l'entendais retentir dans le petit bureau. Elle faisait résonner la table comme le vrombissement d'un très gros insecte. Je voyais le téléphone, la table et l'étroite fenêtre ombragée par les branches du cèdre. J'étais soudain dans cette pièce sombre. Je retrouvais les photos au mur, celles de mon grand-père que je n'avais pas connu. Je revoyais le placard en fer, je sentais la fraîcheur de la pièce. Puis, m'accrochant à la sonnerie comme à un fil qu'il ne fallait surtout pas lâcher, je quittais le bureau et traversais le couloir. Je visitais les pièces du rez-de-chaussée. La sonnerie du téléphone était le sésame qui me permettait de retrouver la maison, comme on retrouve parfois dans ses rêves une personne qu'on a aimée. Et je pouvais presque prendre possession de ces lieux où je m'étais toujours sentie une étrangère et qui m'habitaient pourtant comme une hantise, comme une personne. Je montais l'escalier et j'entrais dans la chambre de ma grand-mère, lumineuse, arrangée avec soin. Celle de ma grand-tante, spartiate et meublée de formica. Je regardais les mouches mortes au pied des fenêtres. Lorsque la maison restait fermée longtemps, après l'été, il y avait souvent des dizaines de mouches mortes sur les rebords des fenêtres et sur le parquet. Puis je montais l'escalier qui menait au deuxième étage. La sonnerie devenait lointaine, presque inaudible. Mais j'étais si concentrée que je n'en avais plus besoin. Je pouvais laisser pendre le combiné au bout de ma main.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Nous sommes tous, bien plus que par la génétique, déterminés par l'enfance que nous avons connue, par tout ce que nous y avons vécu, expérimenté, imaginé, et que nos parents ne soupçonnaient même pas, par ces immenses plages d'ennui que nous devions traverser, avec pour seule compagnie les monstres de notre imagination, par la transgression des interdits et les histoires bancales qu'il nous fallait inventer pour s'en justifier, et aussi par la rencontre d'adultes bizarres, terrifiants, brutaux ou simplement maladroits avec lesquels il fallait bien coexister. Un vert paradis, dit-on pourtant sans réfléchir, de ce territoire enfantin, comme si la mémoire se devait d'être sélective. C'est pourtant bien, durant nos premières années, celles dites de l'innocence, que l'on apprend comment marche le monde, les rapports de pouvoir, l'habituelle violence des forts sur les faibles, les jeux sexuels imposés, l'humiliation et la honte, l'hypocrisie et le mensonge. Les petits d'hommes apprennent vite en regardant vivre les adultes. Dans son dernier roman, La Sainte Famille, qui vient de paraître aux éditions de l'Olivier, Florence Sévos nous entraîne dans le souvenir restitué d'une enfance apparemment paisible. Celle de Suzanne et Thomas, qui, l'été venu, reprennent possession d'une grande maison au bord d'un lac. Une aïeule y meurt difficilement dans une chambre retirée. Leur grand-mère tyrannise sa sœur, demeurée vieille fille, dévorée d'amour pour ses neveux. Une mère autoritaire et un père lointain ne vont pas tarder à se séparer. Une cousine délurée vient semer le désordre. Un oncle, frôleur et inquiétant, se love le soir dans les bras de sa mère pour y pleurer. Suzanne grandit dans une sorte d'effroi, se réfugiant dans le mensonge, comme sous une couverture confortable. Devenue adulte, elle se souvient de son apprentissage, de la solitude et du secret. Dans la veine de Flannery O'Connor, d'Henry James et d'Alice Munro, Florence Sévos nous offre, avec la Sainte Famille, un conte cruel et fascinant dans lequel, par la grâce de sa belle écriture, nous retrouvons nos propres blessures d'enfance. Et elle est aujourd'hui l'invitée de cette première humeur vagabonde de la saison, dorénavant hebdomadaire.
Mona, Mona, see the world upside down.
Bonjour Florence Evos.
Bonjour Kathleen Evin.
Est-ce que pour vous, les adultes, ça existe vraiment? Est-ce que nous ne sommes pas tous des enfants avec des rides?
Oui, il y a un peu de ça. Ou alors ce qui reste, quelque chose qui reste indéboulonnable quand même, c'est l'idée qu'on se fait de l'adulte quand on est enfant. Alors après on comprend que... Voilà, ils sont comme nous, mais il y a quelque chose, une autorité, qui reste quand même très forte. C'est une image dont on a du mal à se défaire, de cette personne qui semble avoir tout pouvoir, et pourtant non, en fait.
Mais à vous lire, Florence Evos, on a l'impression que c'est vraiment l'enfance qui fait de nous des êtres humains dans le monde. On ne s'en sort pas, on y pense, on la revit, et en fait tout ce qu'on a vécu à ce moment-là détermine ce qu'on va être ensuite dans la vie. Comme s'il n'y avait plus tellement d'apprentissage après. L'apprentissage essentiel se fait dans ces années-là.
Oui, j'en suis sûre. J'en suis sûre, et ce qui est drôle aussi, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que tout ce qui est extrêmement important pour les enfants, c'est absolument à l'insu des adultes, même des parents les plus proches et les plus aimants, ils ne peuvent pas imaginer ce que repèrent en particulier les enfants, ce qui va rester imprimé en eux. Mais je pense très souvent à une phrase de Flannery O'Connor, j'espère que je vais pas trop la déformer, mais je crois qu'elle disait qu'en fait tout ce qu'on peut apprendre, on l'apprend avant l'âge de 12 ans. Et c'est comme si, voilà, l'âge de 11-12 ans était une espèce d'âge d'intelligence maximum. Et après, on décline.
C'est encourageant pour nous. Les deux enfants que vous décrivez et à qui vous donnez d'ailleurs indifféremment la parole, c'est une sorte de globalité, de monde de l'enfance qui s'exprime dans ce livre, peu importe que ce soit Suzanne, Thomas ou un narrateur extérieur. C'est vraiment le monde de l'enfance qui regarde le monde des adultes et qui en découvre les cruautés, les failles et les faiblesses qu'ils savent très bien exploiter. Et dans ce livre, Florence Evos, il y a des personnages qu'on a déjà croisés dans vos livres précédents.
Oui, c'est vrai. Par exemple, le personnage d'Odette, qui est la grand-tante pour qui ses neveux sont absolument tout au monde. et qui est une personne un petit peu bizarre, on pourrait penser qu'elle est simple d'esprit. En même temps, elle a un côté rebelle, par exemple, par rapport à la religion. Toutes ces histoires-là, Dieu, la messe, elle s'en fiche complètement et elle trouve que ce sont un peu des bêtises et qu'il ne faut pas trop mettre ça dans la tête des enfants. Et c'est une vieille fille, on ne sait pas trop est-ce qu'elle a eu une seule histoire d'amour qui a mal tourné. Et donc, elle n'a pas eu d'enfant elle-même. Et c'est vrai que ce personnage, on le croisait dans un livre que j'ai écrit, dont j'ose pas dire le titre parce qu'il est trop vieux et j'aurais honte. Mais c'était mon premier livre aux éditions de l'Olivier. Il revenait un peu plus dans les apparitions. Moi, d'une certaine manière, je trouve qu'il y a quelque chose de lui, même bizarrement, dans Le Garçon Incassable. Et je savais qu'un jour, j'allais reprendre ce personnage et lui donner un rôle plus important, que j'allais essayer de lui rendre mieux justice.
Oui, il y en a d'autres aussi. Il y a l'instituteur qu'on a déjà croisé, le personnage de l'oncle. Oui. Comme si, en fond, justement, ces trajectoires qu'on croise dans l'enfance, au fond, elles creusent des sillons ensuite. Et vous qui êtes écrivain, ce sont des personnages déjà que vous avez rencontrés enfant, qui étaient déjà des personnages de roman.
Oui, mais j'en étais presque gênée quand j'ai commencé le livre, parce que, par exemple, il y avait effectivement dans un de mes tout premiers livres pour enfants un épisode comme ça dans une salle de classe très violent où l'instituteur choisit une tête de Turc parmi les élèves et lui fait subir une sorte de séance de torture très longue et très, très éprouvante. Et en fait, c'est drôle parce que ce texte, c'était un épisode d'un livre pour enfants et pour moi, c'était le premier vrai texte que j'avais écrit. Avant, c'était comme un peu des exercices de style où je ne sais pas, je trouvais que j'avais pas... Il y avait une sincérité qui n'était pas tout à fait là. Et ce premier texte, il est venu comme ça, il est venu en fait d'un souvenir enfoui et qui a ressurgi très brutalement vers l'âge de, je sais pas, 21, 22 ans. Et je sentais depuis quelques années que j'allais écrire à nouveau cet épisode, mais dans une autre version, que ce serait dans un livre pour adultes. Et je me disais, mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu recycles, tu reprends des choses que tu as déjà faites. Et en même temps, je ne pouvais pas m'en empêcher, il fallait que je repasse par là.
Mais dans cette malle aux souvenirs où vous puisez, Florence Evos, il y a surtout ce qui est très frappant et qu'on ne raconte pas souvent dans les livres, où on a des enfances heureuses, où on a des enfances malheureuses. Or, l'enfance, c'est un mélange parfait de bonheur et de malheur, de chaud et de froid, de rire et de larmes, comme par exemple lorsque la petite Suzanne, qui est l'aînée de la fratrie, elle est plus âgée que son frère, est dans cette voiture qui est une bulle de bonheur, de famille, mais tout d'un coup, au cours du voyage, le regard change.
Suzanne se souvient d'une période où il y avait de la gaieté dans la maison. Il était difficile de savoir si leurs parents se trouvaient soudain heureux ensemble ou si leur joie à chacun venait d'ailleurs. Mais ils étaient légers en présence l'un de l'autre. C'était particulièrement perceptible pendant les trajets en voiture. Pour Suzanne, les trajets en voiture étaient la vie même. La vie à échelle réduite, mais infiniment précise et déployée. Le passé derrière, l'inconnu devant. À l'intérieur de la voiture, sa famille. Dehors, le monde. Quatre personnes ensemble et pourtant parfaitement indépendantes, chacune dans son silence. Les trajets en voiture étaient aussi les seuls moments où elle parvenait à aimer en même temps ses deux parents et son frère. Les aimer avec force, comme on aime une idée, et aussi les aimer physiquement, à travers ce qu'elle voyait ou devinait d'eux. La main de son père sur le levier de vitesse, les cheveux de sa mère qui débordaient de l'appui-tête. À cette époque, que Suzanne appelle « époque de la gaieté avant la catastrophe », un couple de médecins de la ville se prend d'affection pour leurs parents et les invite souvent à déjeuner le dimanche. Ils s'appellent Mon Fils, ce qui fait pleurer de rire Suzanne et Thomas. Ils ont deux enfants odieux que Suzanne et Thomas ont surnommés les « ta-gueule » à l'issue de la première rencontre. Quand ils remontent en voiture, la nuit tombe déjà. « Encore un dimanche gâché », pense Suzanne. À la mélancolie du dimanche soir va s'ajouter la précipitation car il est déjà tard. Se laver, se mettre en pyjama, dîner, il faudra tout faire vite et leur mère sera tendue, agacée par le moindre détail. Thomas s'est endormi, sa tête comme démontée, posée sur son épaule. Dehors, la tempête est passée. Il n'y a pas d'autre bruit que le ronronnement du moteur et la pression des pneus sur le goudron. Suzanne regarde à travers le pare-brise la ligne jaune discontinue qu'ils avalent sans fin dans la lumière des phares. Elle tourne la tête et vérifie que la lune les suit, et que même si elle disparaît un temps derrière une colline, elle ne les lâche pas d'une semelle. Il lui semble soudain que tout en étant assise dans la voiture, elle court à travers les bois dans la nuit. Elle regarde à nouveau ses parents et son frère. Elle les regarde comme si elle ne les connaissait pas et que tout pouvait recommencer à neuf. Elle voudrait que son père prenne une autre route et qu'il n'arrive jamais à destination.
Florence Evos, le voyage en voiture pour les enfants est un lieu de rêverie, d'imaginaire et de grande cassure parce que soudain on capte des choses entre les parents qu'on n'a pas captées avant et on les sent tout d'un coup étrangers et on se sent soi-même étranger. C'est bien comme ça que Suzanne commence à se séparer de la bulle familiale.
Oui, parce qu'en voiture, on est à la fois ensemble et complètement séparés, et on est un petit peu hors du temps. Moi, quand j'habitais à la campagne, on a fait beaucoup de... J'ai beaucoup de souvenirs de trajets en voiture, et j'ai l'impression que pendant ces trajets en voiture, j'avais une vie intérieure absolument très, très intense, une perception des personnes autour de moi très différente, parce que je les regardais justement un peu avec un regard extérieur. Donc tout à coup, je découvrais leur beauté, par exemple, leur beauté physique. Et oui, ce mélange d'être ensemble, d'être séparés, enfin d'être ensemble au sens d'être unis, et pourtant d'être chacun parfaitement séparé, la conscience que cette séparation est absolument irrévocable. Et ça, c'est quelque chose qu'on découvre plus tard, qu'on ne peut plus retrouver une osmose comme on a connu, par exemple, avec un frère ou une sœur. Et puis cette séparation d'avec le monde extérieur, les trajets en voiture, c'est un lieu d'acuité et de rêverie très fort, je crois.
Alors ce voyage en voiture, il ouvre et il clôt un chapitre du livre, de votre livre, La Sainte Famille, au milieu duquel la petite Suzanne se voit dépossédée de son corps, en fait, de deux manières différentes. Une bienveillante, une agressive de la part d'un petit garçon, mais c'est la première fois qu'elle sent que voilà, le corps d'une fille, d'une fillette, et peut-être d'une femme, parfois c'est un combat pour en garder la propriété. C'est un moment très déchirant dans le livre, et c'est un moment que toutes les lectrices reconnaissent.
C'est un combat pour en garder la propriété. Enfin, d'ailleurs, Suzanne, elle voit bien qu'elle trouve que c'est perdu d'avance, j'ai l'impression. Et surtout, ça ne va pas sans une humiliation, c'est-à-dire que de vouloir un tant soit peu conserver la propriété de ce corps est quelque chose de dégoûtant. Elle se fait d'abord examiner par un adulte ami des parents qui est médecin, mais elle n'a pas été prévenue, donc elle se retrouve sur une table d'examen, les jambes écartées, avec une lumière braquée entre ses jambes, et la présence de sa mère, et c'est une honte terrible. Et ensuite, elle se retrouve dans la chambre avec le fils qui, lui, veut jouer
au docteur,
enfin au papa et à la maman. Et sa bizarrerie à lui, c'est qu'il souhaite que dans le jeu, Suzanne et lui portent les noms de ses parents à lui. Et là, elle sent là-dedans, en fait, c'est dans ces choses un peu qui ne sont pas à leur place, c'est-à-dire se faire examiner par un médecin qui est un ami en présence de sa mère, et ensuite faire un jeu, bon, on en fait des jeux comme ça, d'une certaine manière, c'est inévitable. Et ça peut être amusant, mais là, il y a quelque chose qui la met profondément mal à l'aise. C'est pourquoi porter les prénoms des parents du garçon. Et elle remarque tout de suite ces choses-là.
C'est une famille de province, une famille bourgeoise, une famille catholique. Et d'ailleurs, la religion arrive assez souvent parce qu'il y a cette particularité dans la famille de Suzanne et Thomas, c'est qu'on les oblige à regarder la messe à la télévision le dimanche. Et que la religion est là, c'est-à-dire la notion, elle est là, comme elle l'est souvent quand la religion est juste une gesticulation, c'est la notion du péché. Et en fait, le péché est quelque chose qui traverse beaucoup la vie de ces enfants. C'est important comme pour la transgression, justement, pour apprendre à transgresser en ayant à la fois la crainte du châtiment divin et le plaisir de cette transgression.
Oui, et aussi le désir de s'arranger avec cette notion de péché, parce qu'on sent bien qu'il y a des choses que de toute façon on va garder secrètes. Alors on se fait un petit peu son propre code par rapport aux transgressions. Qu'est-ce qui est une vraie transgression? Qu'est-ce qui n'en est pas? Et ça rend, Suzanne, elle s'arrange avec ça. Enfin, je sais pas, c'était le cas pour moi. Je crois que pour elle, la religion, mettant de côté tout ce qui est ennuyeux, fastidieux, obligatoire, c'est quand même un territoire intéressant et presque un territoire d'aventure. Et il y a ce goût du sacré qui est très, très important chez Suzanne. Elle a besoin que des choses soient sacrées et elle a beaucoup de plaisir à faire des transgressions, même à blasphémer, mais parce que ça va avec son sens du sacré. Sinon, ça serait pas amusant, et sinon, il n'y aurait pas de vrai sacré.
Thank you.
L'humeur est vagabonde sur France Inter.
C'est à cette période qu'Odette a commencé à se demander combien de temps il faudrait à son corps pour atteindre le sol si elle sautait par la fenêtre et si la tête arrivait forcément la première. Elle ne pensait pas qu'elle était triste, elle faisait tous les gestes de la vie quotidienne normalement, peut-être un peu moins vite. Elle s'occupait de sa mère, elle allait même parfois au cinéma, mais lorsqu'elle traversait la passerelle, elle regardait la Saône et se voyait soudain enjamber la balustrade dans un mouvement aérien. Où elle s'imaginait trébucher en traversant la rue, juste au passage du trolley. Comme elle n'arrivait pas à s'endormir le soir, elle a demandé à Marthe les coordonnées du médecin qui lui prescrivait ses somnifères. Elle, qui n'en prenait qu'occasionnellement, s'est mise à en prendre tous les soirs. Vers 18h, elle se disait « Dans un peu plus de 3h, je vais prendre mon somnifère, il ne reste plus beaucoup à attendre. » Elle découpait ses journées heure par heure, et parfois elle écrivait la liste de ce qu'elle avait prévu de faire, les choses quotidiennes comme les choses occasionnelles. Ranger la cuisine, aérer les chambres, se laver, déjeuner, appeler le secrétariat du médecin, acheter des chaussettes en laine. Et chaque chose qu'elle rayait sur la liste la rapprochait du soir. L'année entière était découpée de la même manière sur le calendrier. Les vacances scolaires figurant le répit et le mois de vacances qu'elle passait avec les enfants au lac, l'objectif vers lequel toute l'année était tendue. Elle envoyait souvent des colis aux enfants, une mallette de jeux complète, petits chevaux, dames et nains jaunes, Picsou magazine, les tickets de trolley et de métro qu'elle mettait de côté pour la collection de Suzanne. Elle n'allait jamais au bureau de poste où elle avait travaillé pendant près de 40 ans. Elle avait trop peur de croiser quelqu'un qu'elle connaissait et de devoir faire la conversation. Dans la rue, elle ne supportait pas qu'on marche juste derrière elle. Il lui semblait qu'elle avait besoin d'un espace minimum entre elle et les autres personnes. Dès que cet espace rétrécissait, son pouls s'accélérait brutalement.
Florence Evos, on vient d'entendre une page où vous décrivez la tante Odette, qui est le souffre-douleur de la grand-mère, c'est sa sœur, et c'est la grand-mère qui exerce tout à fait une domination extrême sur cette sœur pas mariée, maltraitée, qui adore les enfants. C'est très étrange comme dans votre livre, il y a à chaque fois un fort et un faible. Il y a toujours des rapports de couple. Et en fait, ces rapports de pouvoir s'exercent comme une sorte de contagion sur les enfants. La grand-mère maltraite sa sœur, la mère tape sur les enfants, le maître d'école maltraite les élèves. Et du coup, Suzanne, qui souffre pourtant de ces rapports de pouvoir, de ce pouvoir mal exercé, va aussi l'exercer sur son frère. Il y a une scène dans le lac où elle a une très grande tentation de le laisser se noyer, simplement parce qu'elle a le pouvoir de le sauver ou pas.
Elle veut le sauver, mais c'est vrai qu'elle passe son temps à le brutaliser, à le malmener et elle le gifle. Hein. Après l'avoir sauvé, elle le gifle, ce qu'elle n'avait jamais fait. Alors c'est à la fois, effectivement, c'est pour moi c'est tout à fait ça, c'est une contagion de la brutalité, des gestes violents et de l'exercice du pouvoir. Et puis, pour Suzanne, c'est à la fois une révolte contre l'amour qu'elle éprouve pour son frère, la curiosité de savoir ce que ressent leur mère quand elle les gifle. Il y a cette petite joue toute douce, toute tendre et rebondie qui est là devant elle et un jour elle ne peut plus résister.
En fait, c'est sans grande démonstration. Vous montrez dans ce livre à quel point les familles les meilleures, les familles chrétiennes, les familles bourgeoises aussi, cultive une tradition de violence verbale, de violence sur le corps des enfants. En fait, on ne s'en rend pas compte, c'est admis. Et d'ailleurs, il y a un passage plus tard dans le livre, quand les enfants sont devenus adultes et que la mère est devenue à son tour l'enfant de ses enfants. Au fond, Suzanne dit, bah oui, c'était l'époque, on tapait. Les maîtres tapaient les élèves, les parents tapaient les enfants, les aînés tapaient les cadets.
Et tout était normal. Et tout ça était normal. Mais dans ces familles comme celles que je décris, famille plutôt bourgeoise, chrétienne. Y a un manque de conversation, il y a un silence terrible. Il n'y en a pas que dans ces sortes de familles-là, mais en tout cas, on les reconnaît aussi à ce silence, je crois.
Et d'ailleurs, lorsque les enfants ont peur de leur maître, par exemple, ils n'en parlent pas à leurs parents. Et quand ils ressentent une honte parce qu'ils ont été brimés, maltraités par d'autres, on la garde pour soi. On ne se confie pas.
On ne se confie pas, ça serait... Je me souviens des années plus tard, j'ai raconté à mes parents ce que j'avais vu... plusieurs fois en classe, à l'école primaire. Et ils étaient en colère, ils m'ont dit « Mais pourquoi tu ne nous en as pas parlé ? On aurait pu faire quelque chose. » Je leur ai dit « Mais ça ne me serait pas venu à l'idée. Ça ne marchait pas comme ça. » On avait l'impression de cette espèce de coalition normale entre les enseignants et les parents. Et de toute façon, c'était impossible de remettre en cause le geste d'un adulte. Mais... Pardon, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je pensais une chose. C'est comme si... quand Suzanne dit « c'était l'époque », moi j'ai le sentiment que dans beaucoup de familles bourgeoises de province, de familles plutôt catholiques, en fait, mai 68 est arrivé et il y a eu certaines répercussions, mais il y a quelque chose qui n'est pas arrivé, qui a mis beaucoup plus de temps à apparaître, c'est la psychanalyse. C'était hermétique, quoi. L'idée de la psychanalyse ne pouvait pas franchir une barrière. Et c'est pour ça aussi que ça se passait comme ça.
Mais d'ailleurs, Suzanne n'éprouve pas, en tout cas dans le livre on ne le sent pas, n'éprouve pas ni de colère, ni de frustration. C'est comme ça. C'est-à-dire que ça semble évident que les adultes exercent violemment, parfois, leur domination sur les enfants.
C'est comme ça, et même... un point tel que il y a une chose qui lui est insupportable, c'est de voir un adulte défait, humilié, parce que alors là le monde s'écroule, quoi, et elle a une empathie étrange, presque trop grande quand elle voit un adulte humilié. C'est inconcevable pour elle, alors qu'elle a sous les yeux où il lui arrive parfois des choses quand même bien plus plus douloureuses ou en tout cas un peu plus graves. Mais non, c'est à ce moment-là qu'elle souffre, quand elle voit un adulte humilié.
Alors ce fameux maître d'école qui a traversé certains de vos livres et en tout cas est resté dans votre mémoire, Florence Evos, dans ce livre il s'appelle Monsieur Wilde et il a toujours un souffre-douleur.
Monsieur Wilde empoigne la chemise et la ceinture d'Émile et le remet brutalement sur ses pieds. La chaise bascule dans un bruit qui nous paraît assourdissant. « Qu'est-ce qu'on peut faire avec un élève pareil, hein, Émile ?» dit Monsieur Wilde en le poussant vers la fenêtre. « Non, monsieur !» crie Émile, tandis que son corps franchit devant nous, comme sur un tapis roulant, la distance qui le sépare de la fenêtre. « Tu as dit que tu t'en allais. Maintenant, tu t'en vas. » Avec un grondement rauque, Monsieur Wilde a juché Émile sur le bord de la fenêtre, faisant tomber des boîtes de bûchettes de couleur qui s'éparpillent avec un bruit de cascade. La fenêtre par laquelle est passé le cahier est haute et composée d'un seul battant. Émile s'accroche au montant, s'accroche de toutes ses forces, sans plus se soucier de son pantalon qui descend. Aucun de nous, à cet instant, ne se dit qu'Émile ne risque rien, puisque notre classe est au rez-de-chaussée. Nous sommes frappés d'horreur, comme si Émile était en train de mourir sous nos yeux. Chaque parcelle de son corps passée de l'autre côté donne à notre cœur une accélération douloureuse. « Ah !» crie Monsieur Wilde au moment où la cloche retentit, et il cesse aussitôt de pousser Émile. Il s'essuie les mains sur sa blouse, se détourne de la fenêtre et d'Émile. Son regard passe sur nous sans nous voir. Tout en marchant lentement vers le porte-manteau, il défait les boutons de sa blouse. Il la suspend et enfile son blouson de toile bleu marine. Puis il revient vers son bureau. Ses traits sont tirés comme ceux d'un malade. Il range ses affaires dans son cartable et nous faisons de même en silence. nous nous ignorons les uns les autres. À peine jetons-nous un œil, à la dérobée, à Émile. Il a rajusté son pantalon, il essuie sur sa manche la morve qui a coulé de son nez et ravale le reste à grand bruit.
Florence Sévaux, ce qui est terrible dans cette scène, qui dure bien plus longtemps que ça dans le livre, c'est que, en fait, la brutalité et le sadisme du maître rend les élèves complices.
Oui.
Et en fait, la honte qu'ils ressentent, c'est de ne pas être capable de se révolter.
Oui, oui, c'est la honte d'être complice de ce qui arrive à Émile, c'est presque comme si ils le faisaient eux-mêmes. Et en plus, comme ils sont évidemment en proie à cause de la très grande émotion qu'ils ressentent, de la peur qu'ils ressentent, ils sont en proie à des réactions qu'ils ne peuvent pas contrôler, le soulagement, des éclats de rire. Donc ils se sentent terriblement coupables.
Mais alors ce qui est surprenant aussi, c'est que, en fait, Suzanne en arrive à faire une gradation dans les violences qu'elle trouve assez supportables, comme celle-là, par exemple, et les violences qu'elle trouve tout à fait insupportables, qui sont les violences verbales. Et elle dit, par rapport à d'autres enseignants qui rabaissaient les élèves nuls, en leur disant, de toute façon, vous aurez des vies aussi médiocres que celles de vos parents. Et ça, pour elle, c'était le sommet de l'abomination.
Peut-être aussi parce que pour elle, il y a des enseignants qui ont une pensée extrêmement... une pensée indigente, et où leur seul propos, c'est de dominer et de rabaisser les élèves qui sont devant eux, tandis que l'autre maître d'école, Monsieur Wild, elle sent qu'il est fou, elle sent qu'il est possédé par quelque chose, elle sent que peut-être après il regrette, elle sent que c'est quelqu'un qui est capable de choses atroces, mais elle sent qu'à d'autres moments, il souffre lui-même terriblement.
D'ailleurs, elle se demande s'il ne souhaite pas que les élèves se révoltent.
Oui.
Mais jamais ça n'a lieu.
Non, jamais ça n'a lieu.
Cette chose m'étonne, mais les choses qu'elle disent nous restent cachées. On t'a appelé pour nous les expliquer. Yes, you've been called to tell us what they mean. It's a plot though, I told you so. I'm wising up to them. They seem like good friends, best friends. But I'm wising up to them. Making friends with the fireflies. You know when they die, their light stays alive. And the things they say are not what they seem. So you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Je ne peux pas dire que cette chose m'étonne, mais les choses qu'elle dit nous restent cachées. On t'a appelé pour nous les expliquer. Yes, you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean.
stupid quite to tell us what they mean.
Florence Evos, au début de votre livre La Sainte Famille, on l'a d'ailleurs entendu dans le générique de l'émission d'aujourd'hui, la narratrice, Suzanne, retourne en pensée souvent dans cette maison qui l'obsède, même si elle a disparu. On pourrait croire que les blessures de l'enfance supprimeraient ce besoin de se replonger dans la mémoire. Mais en fait, ça reste une enfance heureuse. C'est ça qui est formidable, c'est que, en dépit des blessures, ou peut-être grâce à elle, elle a grandi et elle est capable de prendre le tout et de ne pas le rejeter.
Ben oui, ben on tient aussi à ses blessures, je crois. Et alors, peut-être ce qu'elle cherche dans cette, en retournant dans cette maison, ou en se laissant volontiers envahir par tout ce qui lui revient fréquemment de cette maison, c'est qu'elle sent que des choses essentielles pour elle, c'est comme si elle était née là-bas. C'est sa conscience peut-être qui est née là-bas, ou mais en tout cas il y a du coup quelque chose, une chose à laquelle elle tient, même si elle n'arrive pas vraiment à la nommer. Et ça englobe à la fois les moments heureux, les moments d'exaltation à cause de la nature et les choses qui l'ont fait souffrir.
C'est toujours cette notion de refuge aussi quand on est devenu adulte et qu'on a envie de se réfugier dans la maison d'enfance. Alors, Vinciane Lemonnier nous a rejoint. Bonsoir Vinciane.
Bonjour.
Oui. Mais oui, je dis plus bas. Bonsoir, c'est encore les habitudes. Voilà, bonjour Vinciane. Vous êtes allée justement retrouver des adultes, mais qui sont restés d'une certaine manière des enfants grâce à la maison qu'ils ont conservée.
Exactement. Ils s'appellent Carole et Karl et ils ont passé leur enfance sur une petite île sauvage de la Loire, l'île de Souzé, c'est près de Saumur, où leur père a acheté une vieille ferme qu'il a rénovée et ils s'y retrouvent aujourd'hui aimantés par le lieu. Alors la maison est toute en pierre blanche, elle se dresse dans les champs et elle est entourée de la Loire qui chaque année la coupe des rives. Aujourd'hui, Carole a 25 ans, Karl 22, et ils ont remonté avec moi le fil de leurs souvenirs en empruntant les chemins de leur enfance entre les berges au trésor, la proximité de la nature et la présence bienveillante de l'eau tout autour.
Geneviève ! Oh bordel !
Geneviève ?
Ouais, c'est Geneviève. Il y a Geneviève, Janine et Bubble.
D'accord.
Voilà. Il y a Athos qui est le chien de Carole, ma sœur. Et voilà.
C'est chaud, hein?
Ouais. En gros, c'est jusque là. Pour les enfants. Et voilà. Là, c'est à peu près le lit moyen quand elle est haute.
Donc la Loire.
Ouais. Là, on voit le bras quand il est à sec. Les trous d'eau, la végétation qui est bien verdoyante. Comparé à derrière nous, où c'est bien sec et doré.
Avec la chaleur estivale.
Oui, c'est ça.
Et donc toi, tu traverses régulièrement en canoë.
Souvent, ça commence à monter avant Noël. L'eau, elle monte et on a une décrue des fois au mois de mai. Et comme cette année, il y a eu une belle crue ensuite au mois de juin. L'eau, elle remonte, donc ça recoupe le gué encore une fois et on repasse en bateau ou en canoë.
Donc là, en face, c'est quoi?
C'est de l'autre côté, c'est le continent.
Tu dis ça, le continent?
Ouais, des fois, je dis que c'est le continent. On passe complètement dans un autre endroit. Là, juste en face, il y a l'école primaire. Et donc, j'ai commencé à traverser en canoë à ce moment-là. Vu que c'était juste en face et que j'avais 30 mètres ensuite à faire à pied pour aller à l'école. Il y a quand même ce rythme de vie qui est tranquille, à la vitesse de la Loire, quoi. Pour moi, ça n'a jamais été une contrainte. C'est comme ça. Ça fait partie du lieu et de sa magie.
L'île ici, elle est comment? Comment est-ce qu'on pourrait la décrire?
Merveilleuse, plein de découvertes.
Beaucoup de curiosité.
Formatrice, pleine d'émotions. En tout cas, beaucoup de positif. Ouais.
Je vis sur cette île depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Les plus longs souvenirs de ma vie, de ma jeunesse, de mon enfance sont ici.
Mais je suis arrivé, j'avais 4 ans.
Beaucoup au bord de l'eau, beaucoup de pêche.
Aller nager, toujours dans les eaux vives. Je sais comment sortir d'un tourbillon si ça arrive.
L'île, elle est pas très grande, elle fait 4 km de long sur 1 km de large.
Beaucoup d'animaux.
Que de la pâture pour vaches.
C'est les vaches des paysans.
Il y en a surtout le long des allées, des chemins. En fait.
Ensuite, sinon, il y a des chevreuils, des faisans, il y a des lièvres.
Sinon, il y a quelques bords de clôture aussi qui sont pleins d'arbres pour les vaches, pour qu'elles puissent se mettre à l'ombre.
Beaucoup de peupliers. Beaucoup de frênes.
Il y a des belles couleurs de soleil, de lumière.
Il y a quelques arbres fruitiers.
Il y a des belles couleurs de végétation.
On trouve même du papyrus. Bon, c'est pas le même qu'au Nil, mais on en trouve. Toujours l'amour du lieu, donc vu qu'on aime tous les deux cet endroit, ça nous rapproche aussi. On est frères et sœurs, des fois c'est difficile à dire plus. L'envie de que ça continue, quoi. Qu'on perde rien au lieu et se rendre compte de ce qui nous entoure. Pas le détruire, pas le malmener, le respecter, tout simplement.
Pourquoi ça te touche autant, ça?
Parce que j'ai pas l'habitude de parler de ça. Et voilà tout ce que ça m'a apporté dans ma vie. La conscience de ce qui nous entoure. Végétaux, animaux, humains, les autres.
Ce petit bout de forêt, là. Quand on était plus jeune avec mon frère, on s'amusait à faire des pièces de théâtre. Et dans cette petite forêt, on avait construit une cabane. Et on avait tourné un film avec une vieille caméra qu'on avait trouvée. Tout un scénario. C'était pas mal.
Donc c'est ici, Carole, ton lieu secret et sacré de ton enfance.
Parce qu'ici, il y a toujours des arbres ou du bois flotté dans l'eau. Des grosses racines. Parce que les arbres ici, à force de prendre le courant, ils chutent dans la Loire. Et après, ils repoussent. Et ça fait des micro-mondes de libellules. Des libellules bleues avec leurs ailes noires. Donc là... Quand l'eau monte, elle monte jusque là. Là, on est sous l'eau, en fait.
Et on est protégé complètement par les arbres qui tombent dans la Loire.
Oui. Quand j'étais petite, je venais beaucoup ici. Je faisais des maisons pour les fées. Les fées, c'était, je pense, pour moi, c'était les libellules. Il y en a des fois qui plongent dans l'eau pour récupérer des tout petits alevins comme ça.
Ah, c'est vrai qu'avec toutes ces formes, en fait... De troncs et de branches qui flottent dans l'eau.
Faisaient les maisons là-dedans.
Dans les racines.
Oui, elles sont magnifiques.
Ah oui, les lapins. Quand la Loire monte, ça regroupe les lapins sur des petits îlots, parce qu'ils sont bloqués sur des îlots, et ça fait des pyramides de lapins, des cônes de lapins. Et donc, il y a les vieux lapins en bas, et puis plus on monte la pyramide, et plus on voit les petits lapins jusqu'aux bébés lapins tout en haut de la pyramide.
Donc le vieux lapin se noie.
Le vieux lapin se noie pour laisser le plus jeune vivre, ouais. Exactement. Parce qu'il considère qu'il a moins la place que sa progéniture, vu qu'elle est encore toute jeune, quoi. Du coup, des fois, on va les sauver, on prend le bateau, et puis on pose des planches, et les lapins, ils montent sur le bateau.
C'est quoi?
C'est une vertèbre de silure. On a trouvé ça de l'autre côté de la Loire avec mon frère, dans l'eau. C'est un gros silure qui devait faire au moins 2 mètres facile de long. Ça, par exemple, c'est un silex qui a été taillé. Ça, c'est des coraux, on en trouve plein. Puis des coquillages. Puis il y a des oursins aussi, j'ai plein de petits trésors. Petits trésors, il y en a plein. Puis ça, c'est un autre trésor qu'on aime bien récupérer aussi des fois. Les bois flottés. C'est du bois mort qui a tellement été humidifié et qu'après ça a séché tellement à cœur qu'il est tout léger et sous l'ongle, on dirait cotonneux. C'est très doux, le bois flotté.
Aujourd'hui, du coup, tu te sens comment sur cette île?
C'est un endroit où je me sens chez moi. Je sais que quand je vais pas bien et que je suis préoccupée ou mélancolique ou inquiète, j'ai tendance à vouloir revenir ici pour me sentir bien, me poser moi-même dans ma tête et après comprendre.
Eh ben entier. Entier, ouais. Demain, il fait encore plus chaud.
Ah oui?
Ouais. Demain, c'est 37 ans. Encore? Ouais. Geneviève et Janine.
Et aujourd'hui, on peut se rendre sur l'île de Souzet où la famille tient des chambres d'hôtes. Il suffit d'attendre le père, André Petit, qui vient en barque jusqu'à l'arrivée à la saison des hautes eaux. Et petite info supplémentaire pour sortir d'un tourbillon, comme le dit Karl dans le reportage. Il faut en fait plonger dedans, descendre au fond, donc, pour remonter ensuite à la surface et s'en échapper.
Oui, il faut pouvoir y arriver. Merci beaucoup, Vinciane, pour cette jolie incursion dans un territoire d'enfance au milieu de la Loire. Cette pyramide de lapins qu'on va sauver en barque, je sais pas, j'aimerais bien la voir dans un de vos livres.
Cette pyramide de lapins, c'est un enchantement, cette histoire.
C'est merveilleux. Hein.
Et c'était, ça m'a frappé aussi le terme qu'il employait pour dire comment il se sentait là-bas, il se sent entier.
Mais je me disais en lisant, en refermant votre livre, Florence Sévos, que vous qui venez de la campagne, de l'Est, de la forêt d'Argonne, par là, il y a dû avoir un laps de temps avant que vous puisiez des bribes de souvenirs pour alimenter vos livres. Comme s'il fallait laisser un certain temps avant que les souvenirs puissent devenir de l'imagination littéraire.
Oui, ce qui est étonnant, c'est que si longtemps après, il y a des choses qui deviennent tout à coup, qui se mettent à avoir une présence très forte. Il y a des notes que j'avais prises, je me suis aperçue qu'elles avaient parfois plus de 25 ans. Et tout à coup, bah là, elles ont servi. Par exemple, l'image de cette image inventée par Suzanne de son oncle et de sa tante en train de jouer avec leurs jouets. Alors qu'ils ont plus de 50 ans, qui jouent en cachette avec les jouets des enfants la nuit. C'est une note que j'avais prise il y a très très longtemps. Oui, c'est vraiment étonnant à quel point des sensations presque gagnent en force avec le temps.
En tout cas, ces souvenirs d'enfance ont nourri très joliment ce livre « La Sainte Famille ». Qui vient de paraître aux éditions de l'Olivier. Je vous remercie, Florence Sévos, d'être venue nous voir aujourd'hui. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Et bien voilà cette première de la nouvelle parution de l'Humeur Vagabonde hebdomadaire. S'achève, j'ai une pensée pour mon ami Paula Jacques qui a occupé ce micro pendant si longtemps à la même place. Et voilà, une pensée amicale et on la regrette infiniment. Après les informations de 15h que vous présentera Dominique Delaroy, vous retrouverez bien sûr Fabienne Chauvière et on se retrouve dimanche prochain à 14h si vous le voulez bien. Au revoir.